France Musique. Musicopolis. Novembre 1939, Leningrad. C'est à Yevgeny Mravinsky que Dmitri Chostakovitch a confié voici quelques semaines sa sixième symphonie pour qu'il la crée avec son orchestre philharmonique de Leningrad. Le 21 novembre 1939, la première audition très attendue par le public a lieu dans la grande salle de la philharmonie. C'est un immense succès. Le final est même bissé. Un critique de Leningrad est heureux, après la création de la sixième symphonie de Chostakovitch, de constater que depuis sa précédente symphonie, la cinquième, donnée tout juste 2 ans plus tôt, le compositeur a encore progressé dans la voie de la libération des influences formalistes. Le journaliste juge que l'œuvre est écrite dans un langage clair, accessible à tout auditeur de concerts symphoniques. Il lui prédit un futur brillant. Mais avant le futur, voyons un peu le passé de cette symphonie. Exactement 2 ans avant la création de la sixième symphonie de Chostakovitch a eu lieu la création de la cinquième symphonie, avec un succès absolument inouï, du jamais vu. Une demi-heure d'applaudissements. Les régisseurs obligés d'éteindre les lumières pour signifier au public qu'il est temps de sortir. Une renaissance presque pour Chostakovitch, qui avait cru sa dernière heure arriver en 1936, lorsque Staline, après avoir assisté à une représentation de son opéra Lady Macbeth de Mtsensk, avait suscité dans la Pravda un article intitulé « Le chaos remplace la musique ». Accusé de formalisme, accusation passible d'on ne sait quel châtiment, les camps, la mort peut-être, une arrestation pour le moins, Chostakovitch a retiré de la circulation sa quatrième symphonie, trop austère pour se plier au goût du réalisme soviétique. Et avec la cinquième, il a réussi le tour de force. Ne pas renier son exigence artistique et rester accessible et universel. Thank you. la 5e symphonie, Chostakovitch a travaillé l'ambiguïté de son langage musical. Peut-on accoler une signification définitive à une mélodie, à une harmonie, à un assemblage de notes ? Que nenni ! Et donc, le compositeur peut jouer sur des éléments qui paraîtront joyeux à certains, les juges du parti par exemple, mais qui pour lui sonneront grotesques et parfois même tragiques. Après l'achèvement de ma 5e symphonie, écrit Chostakovitch, je n'ai plus rien fait de toute une année. On peut comprendre en effet la difficulté de créer lorsqu'il faut suivre une direction esthétique difficile à évaluer à coup sûr et lorsqu'on sait que l'échec peut être durement sanctionné. Composé qu'un quatuor, poursuit Chostakovitch, formé de quatre petits mouvements. J'ai commencé à l'écrire sans idée ni sentiment particulier, persuadé de n'aboutir à rien. Le quatuor est en effet un des genres musicaux les plus difficiles. J'ai écrit la première page comme une sorte d'exercice, sans envisager un instant de le terminer et moins encore de le publier. Mais ce travail m'avait tellement captivé que j'achevais le reste avec une incroyable rapidité. Il ne faut pas chercher une profondeur particulière dans ce premier quatuor. Il est gai, enjoué et lyrique. Je le qualifierais volontiers de printanier. Lorsque Chostakovitch dit qu'il a conçu l'écriture de son premier quatuor comme une sorte d'exercice, on peut remarquer que l'année où il le compose est aussi sa première année d'enseignement au conservatoire de Leningrad. Il a été nommé en 1937, ce qui est une aubaine pour lui qui est déjà père d'une petite fille et bientôt d'un petit garçon qui va naître en 1938. Ce poste va assurer sa subsistance et celle de sa famille à une époque où ses œuvres sont peu jouées suite au fameux article de la Pravda. Chostakovitch n'est pas un pédagogue naturel, si l'on peut dire. Mais en revanche, il est perfectionniste et il fait donc tout pour apporter le maximum aux élèves qui vont bientôt affluer dans sa classe. Ils sont tous bluffés par sa mémoire extraordinaire, par son immense culture musicale, par sa capacité à lire n'importe quelle partition à première vue et par sa virtuosité d'écriture. Par exemple, lorsqu'il donne à lire à ses élèves un poème de Heine et qu'il leur demande de composer sur le champ une mélodie, lui-même se met à la tâche. Selon l'un d'eux, il écrit la sienne en 5 minutes seulement et c'est la meilleure de toutes. Shostakovitch a un appétit de musique insatiable. Composer, jouer, écouter, il lui faut toujours de la musique. Lorsqu'il ne peut pas se rendre au concert, il écoute la radio. Il s'est très tôt acheté un tourne-disque et il se procure les nouveautés. Il partage avec ses élèves non seulement les grands classiques, mais également ses propres amours, les symphonies de Mahler, le chant de la terre. Il réalise lui-même des arrangements à quatre mains, comme celui de la symphonie de psaumes de Stravinsky. En 1938, à côté de son quatuor, Shostakovich écrit plusieurs musiques de films et une suite pour jazz band. En septembre, il annonce qu'il travaille sur sa sixième symphonie, qui sera dédiée à Lénine. Ce sera une composition monumentale, avec soliste, chœur et orchestre, sur le poème « Vladimir Ilitch Lénine » de Maïakovski. Pendant plusieurs mois, vers la fin de l'année 1938, Shostakovich va affirmer qu'il travaille sur les esquisses de la symphonie Lénine et qu'en raison du type de déclamation du poème de Maïakovski, c'est une élaboration très délicate qui lui prend beaucoup de temps. Enfin, en janvier 1939, à la radio, le compositeur déclare qu'il est prêt à coucher sur le papier sa sixième symphonie. Il n'est plus alors question de Lénine, ni même d'aucune association extra-musicale. Plus de textes, de solistes, ni de chœur. À l'automne 1938, les grandes purges de masse entamées fin 1936 se sont arrêtées. Durant ce laps de temps, plus d'un demi-million de personnes ont été exécutées et près de 2 millions envoyées en prison ou dans les camps du goulag. Ce qui n'empêche que les arrestations ciblées continuent, celles d'artistes notamment. Le poète Ossip Mandelstam, l'écrivain Isaac Babel, le directeur de théâtre, ami de Shostakovich, Vsevolod Meyerhold. Shostakovich avait sans doute raison d'affirmer qu'il composait une symphonie Lénine. À plusieurs reprises dans sa carrière, il a ainsi prétendu travailler sur de grands sujets soviétiques, ce qui lui permettait, dans le même temps, de composer tranquillement autre chose. Les autorités apparemment satisfaites de cette manière. Même s'il était souvent dans le viseur du pouvoir, il restait considéré comme un grand compositeur, capable de servir le régime, le cas échéant. Pour sa sixième symphonie, Chostakovitch n'a pas voulu répéter le modèle de la cinquième, qui avait pourtant eu tellement de succès. Même s'il fait attention de composer une musique qui ne puisse pas être taxée de formalisme, il cherche toujours à se renouveler. Et pour lui, comme pour Mahler, chaque symphonie est un monde en soi. Et comme souvent chez les Russes, elle est aussi une représentation du monde. Même s'il n'est pas question d'appliquer un programme à la sixième symphonie, on peut au moins constater que le premier mouvement, plus long à lui tout seul que les deux suivants, qui sont les derniers, a un ton pour le moins méditatif et plutôt douloureux. Le 27 août 1939, Chostakovitch joue deux mouvements de sa sixième symphonie devant quelques collègues de Leningrad, produisant une énorme impression. Il annonce que le troisième et dernier mouvement sera fini un mois plus tard. Le lendemain, il est cité dans la presse. Le caractère musical de la sixième symphonie sera différent de l'ambiance et de la tonalité émotionnelle de la cinquième symphonie, caractérisée par des moments de tragédie et de tension. Dans ma dernière symphonie, la musique qui domine est d'un ordre contemplatif et lyrique. Je voulais communiquer une impression de printemps, de joie, de jeunesse. Deux mois plus tard, il répète encore qu'il a voulu introduire dans la symphonie des sentiments de printemps, de joie, de jeunesse, de lyrisme. Chostakovitch a mis dans sa sixième symphonie, une fois de plus, toute sa virtuosité d'écriture. Virtuosité qu'il réclame également de l'orchestre, on s'en doute. Avant la première, il joue l'ensemble devant deux amis, Ivan Solertinsky et Isaac Glickman. Glickman raconte. Dmitri Dmitrievitch a joué le final en entier deux fois, et contrairement à son habitude, il l'a loué lui-même. C'est la première fois que j'écris un final aussi bon. Je pense que même les critiques les plus délicats n'auront rien à y redire. Il ne dit rien du premier et du deuxième mouvement. Mais nous-mêmes avons relevé avec enthousiasme la beauté majestueuse du premier mouvement, le largo, l'éclat du scherzo et le final irrésistible et enivrant. J'en suis immédiatement tombé amoureux. Thank you. Le 20 novembre 1939, veille de la création, Chostakovitch écrit à un ami « Demain, ma sixième symphonie sera jouée. Mravinsky fait tout ce qui est en son pouvoir. Ça va plutôt bien. Si elle ne tombe pas à la première exécution et qu'elle est rejouée une ou plusieurs fois encore, ce sera merveilleux. » Grâce à Mravinsky, qui va défendre la partition bec et ongle, la sixième symphonie ne sera pas complètement oubliée. Pourtant, après une première pleine d'enthousiasme, elle a été critiquée par le comité des compositeurs et par plusieurs organes de presse, et abandonnée par la plupart des orchestres qui préféraient la cinquième et plus tard la septième et la huitième. Mais ça, c'est une autre histoire. Le presto final de la sixième symphonie de Dimitri Chostakovitch, l'orchestre philharmonique de Leningrad, dirigé par Yevgeny Mravinsky. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Delphine Baudet pour le mixage et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.